peuple m'entendra, en tout cas je ferai tout pour. J'ai grandi dans mon ghetto modeste, mon prénom c'est Nesta et personne ne me tait.
Merci de rester avec nous à l'écoute de RFI. Il est midi à Paris, 10h en temps universel. Et le journal, c'est tout de suite avec vous, Gilles Moreau. Gilles, bonjour.
Bonjour Caroline Paré, bonjour à tous. Les bilans sont encore provisoires au Venezuela, où la terre a tremblé. Deux puissants séismes ont fait au moins 32 morts et plus de 700 blessés. Les autorités redoutent davantage de victimes. Les recherches sont en cours dans les décombres des immeubles effondrés. On fait le point dès le début du journal. Le secrétaire d'État poursuit sa tournée au Moyen-Orient. L'objectif est de rassurer les pays du Golfe sur la volonté américaine de les protéger. À Bahreïn, Marco Rubio a redit son refus d'une mise en place de péage dans le détroit d'Ormuz. La conférence annuelle sur la reconstruction de l'Ukraine s'est ouverte ce matin à Gdansk en Pologne sans Volodymyr Zelensky en raison des tensions entre Varsovie et le président ukrainien. En France, la canicule historique pourrait atteindre ce jeudi un nouveau pic avant un début d'amélioration attendu en soirée sur la façade atlantique. Le Venezuela donc est sous le choc après le plus puissant séisme jamais enregistré dans le pays depuis plus d'un siècle. Deux secousses de magnitude 7,2 puis 7,5 ont frappé le nord du pays à seulement 40 secondes d'intervalle. Le bilan provisoire, je vous le disais, fait état de 32 morts et plus de 700 blessés, mais il devrait s'alourdir. On fait le point sur les dernières informations en provenance du Venezuela avec Sofia Katsenkova du service international de RFI. Sofia, c'est une course contre la montre qui est engagée pour retrouver des survivants.
Oui, plus de 12 heures après le double tremblement de terre, les secours continuent leurs recherches dans les décombres, notamment à Caracas, où plusieurs immeubles se sont effondrés. Sur les images qui nous parviennent, on peut voir les secouristes qui demandent par moments aux témoins de garder le silence afin d'entendre les voix d'éventuels survivants coincés sous les gravats.
Et la présidente du Venezuela par intérim, Delcy Rodriguez, a décrété l'état d'urgence. Elle appelle tous les médecins et infirmiers à rejoindre leur poste.
Oui, elle a aussi annoncé que des hôtels et des centres d'hébergement ont été mises à disposition des habitants dont les logements ont été détruits. Maintenant que le soleil se lève, beaucoup refusent encore de rentrer chez eux par peur que leur maison s'effondre. Le réseau de téléphonie et Internet était hors service dans certaines régions du pays, ce qui accentue la détresse de nombreuses familles, en particulier pour les millions de Vénézuéliens exilés qui tentent de rejoindre leurs proches. Face au chaos, un site Internet a été mis en ligne pour recenser les personnes disparues. Il compte déjà plus de 10 000 noms. L'aide internationale commence à s'organiser. Plusieurs pays du continent, mais aussi les États-Unis, le Qatar, l'Espagne ou encore la Chine, ont proposé d'envoyer de l'aide humanitaire et matérielle.
Une proposition française également. Emmanuel Macron propose l'assistance de la France qui envoie 85 secouristes. Enfin, selon les modélisations du service géologique américain, eh bien, le bilan final pourrait se chiffrer en milliers de morts. Sofia Katsenkova, merci à vous. Donald Trump a lancé hier soir à Washington les célébrations du 250e anniversaire des États-Unis. Je suis ravi d'annoncer que l'Amérique est de retour, a lancé le président devant des milliers de personnes rassemblées au National Mall. Un discours aux accents très politiques à l'approche des élections. Dans son discours, Donald Trump a repris son refrain sur ses réalisations allant de la victoire dans la guerre contre l'Iran à la prospérité économique. Marco Rubio poursuit sa tournée au Moyen-Orient avec pour mission de rassurer les pays du Golfe sur la volonté américaine de protéger leurs intérêts face à l'Iran. Ces pays ont payé un lourd tribut à l'offensive américano-israélienne lancée fin février. Le secrétaire d'État est à Bahreïn. Il a réitéré son refus d'une mise en place de péage dans le détroit d'Ormuz, affirmant qu'elle pourrait engendrer un chaos total. Les États-Unis veulent un accord avec l'Iran, mais pas à n'importe quel prix, a encore dit Marco Rubio. Ce matin, l'invité de RFI était l'amiral Éric Laveau, ancien amiral responsable de la maîtrise des fonds marins au sein de la force d'action navale basée à Toulon. Il a évoqué la sécurisation du détroit d'Ormuz que les Iraniens ont très probablement miné.
Les Iraniens disposent a priori d'un arsenal assez pléthorique de mines. On va commencer par les mines de fond, c'est celles qui reposent, comme leur nom l'indique, sur le fond marin, qui sont dotées d'une intelligence embarquée qui leur permet de mesurer la signature magnétique d'un bateau, la signature acoustique d'un bateau, Le tout combiné avec une intelligence embarquée sur la mine et qui permet, avec des systèmes de comptabilité de passage de navires, d'exploser sur des cibles prédéterminées. Donc ça peut être un porte-conteneur, ça peut être un pétrolier ou ça peut être un porte-avions.
Ça c'est la première mine, mine de fond.
La deuxième, c'est celle qu'on connaît un petit peu dans l'inconscient collectif, c'est celle qui flotte entre deux eaux avec des cornes sur elle et qui est reliée au fond par une chaîne avec un poids mort et qui flotte au niveau de la ligne de flottaison des bateaux qui passent et qui, à l'impact, explosera. La troisième, c'est une déclinaison de la précédente, c'est-à-dire que vous coupez la chaîne et puis vous la laissez à la dérive. Comme
donc là, elle est en surface.
Voilà, c'est peut-être celle que des marins auraient aperçue, effectivement, et c'est celle qu'on a vue également en mer Noire.
L'amiral Éric Lavaux, il répondait à Arnaud Pontus dans RFI Matin.
RFI.
5 morts et des dégâts infligés à des installations énergétiques, c'est le bilan des attaques ukrainiennes de la nuit en Russie la nuit dernière. L'armée ukrainienne vise des raffineries, oléoducs et dépôts pétroliers afin de priver Moscou des revenus liés de la vente d'hydrocarbures. Sur les plans diplomatiques, la conférence annuelle pour la reconstruction de l'Ukraine s'est ouverte ce matin à Gdansk en Pologne. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky n'y est pas en raison de tensions avec Varsovie. Il y a en revanche Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. À Bruxelles a approuvé en décembre un prêt de 90 milliards d'euros, dont une première tranche de 3,2 milliards versée en juin. Les deux tiers de ces fonds sont destinés à la défense de l'Ukraine. Autre rendez-vous diplomatique du jour, un sommet franco-italien à Antibes sur la côte d'Azur, en présence d'Emmanuel Macron et de Giorgia Meloni. Après une série de dissonances, c'est un rendez-vous, le premier du genre depuis 6 ans, destiné à donner un nouvel élan à la relation bilatérale. Nous vous l'annoncions hier à la même heure, un premier cas du virus Ebola a été identifié en France. La victime est un médecin humanitaire de l'ONG Alima, de retour de RDC, où selon l'OMS, Ebola circule très rapidement. Les autorités sanitaires françaises se veulent rassurantes. L'état du patient est stable. Aude Villiers-Moriamé a recueilli le témoignage du docteur Abdirahman Mahmoud. Il dirige les opérations d'alerte et de réponse aux urgences sanitaires de l'OMS.
Cet incident montre les vrais défis auxquels font face les travailleurs de santé sur le terrain et leur héroïsme. 82 travailleurs ont été contaminés par Ebola, 78 en RDC, 4 en Ouganda. Ils sont extrêmement dévoués, mais ils travaillent dans un contexte de très haut risque. Ebola est l'un de ces risques, mais ils doivent aussi faire face à des problèmes sécuritaires, à des conflits armés, à des risques d'enlèvement, à des crimes. Ils risquent toujours d'être au mauvais endroit, au mauvais moment, et cela devient un vrai défi.
And being the wrong place at the wrong time is becoming a major challenge.
Et on rappelle que la souche du virus Ebola qui circule en RDC mais aussi en Ouganda est rare. Il s'agit de la souche Bundi Bungo contre laquelle il n'y a aujourd'hui ni vaccin ni traitement spécifique. Ebola a fait près de 300 morts depuis mi-mai. Le record de la nuit la plus chaude jamais enregistrée en France a une nouvelle fois été battu la nuit dernière. La canicule historique pourrait atteindre ce jeudi un nouveau pic avant un début d'amélioration attendu en soirée sur la façade atlantique. En ces temps de chaleur extrême en France, les regards se tournent vers l'Espagne, pays qui a pris des mesures spécifiques pour protéger ses travailleurs en extérieur. Illustration à Barcelone avec notre correspondante Élise Gazangel.
Il est à peine 9h du matin dans le parc de Gloriès de Barcelone, mais les températures sont déjà insupportables. Sous un soleil de plomb, seuls quelques jardiniers travaillent.
Oui, il est encore tôt, mais comme tu vois, je transpire déjà.
Carmen González est employée aux espaces verts depuis 25 ans.
C'est dur, mais on a des pauses de 10 minutes toutes les heures ou de 5 minutes toutes les demi-heures. On boit de l'eau et à partir d'une certaine heure, on ne travaille qu'à l'ombre.
Outre ces pauses et les horaires adaptés mis en place depuis plusieurs années, la mairie vient tout juste de distribuer près de 1400 bracelets intelligents à ses employés qui travaillent en extérieur. Pep Limona, coordinateur du service de prévention.
Il mesure sa température corporelle et vibre ou émet un son avant qu'il y ait un danger. Et dans ce cas-là, la personne doit s'arrêter, se reposer, s'hydrater et se mettre à l'ombre.
Une mesure qui a un coût, environ 50 euros par bracelet, mais qui a pour but d'éviter les drames. En juin 2025, une employée de nettoyage des rues de Barcelone est décédée après son service en pleine vague de chaud. Élise Gazangel, Barcelone, RFI.
Enfin, au mondial de football, les phases de groupe touchent à leur fin et le programme des 16e de finale se complète peu à peu. 6 matchs au programme aujourd'hui dans le groupe E, Curaçao, Côte d'Ivoire et Équateur, Allemagne. Dans le groupe F, Japon, Suède et Tunisie, Pays-Bas. Enfin, dans le groupe D, Turquie, États-Unis et Paraguay, Australie. Voilà pour l'information qui revient à 13h sur RFI avec RFI Midi, un conteneur, mais tout de suite 8 milliards de voisins. Emmanuel Bastide, bonjour.
Bonjour Gilles Moreau, prochain journal dans 50 minutes et chez 8 milliards de voisins, nous parlons de l'emploi et des jeunes diplômés sur le continent africain, mais pas seulement.
Les voix de l'abolition se rassemblent à Paris.
sky like black leather. Scary on their toes from the winter zone. The sun is in the heavens, turned up to 11. Said to the locomotion, here comes the ocean. All right, let's levitate above the heat. So dance and lightning. Fight, fight, fight the good fight. Catch me your eyes, seek and discover. Be a lover.
Ancien combattant, militant socialiste et bistrot. C'est de dire si dans ma vie j'ai entendu des conneries. Mais des comme ça, jamais.
Bon, bah lui il va me prendre la tête.
Vous écoutez Principe Actif.
Vous écoutez Principe Actif.
Eh bien on va déjà habituer nos auditeurs à ces bruits qu'ils vont entendre.
À Évreux, 102.4. Dans le sud de l'Eure, 95.9. Principe Actif, le mix des cultures.
Thank you. chaque verset c'est pile dans le mille. J'exerce ma force et file tranquille dans les hautes sphères. Les autres perdent car je les distance vite. Atmosphère propice à l'austérité. Pourtant nous prospérons, les fausses prosternes sans gros chèque nous opérons. Profite pas trop des clichés, j'ai pas ma tête sur des prospectus. J'cogite car trop de vérités se sont cachées dans des procédures. Nos études résument à penser à des phases qui butent. Le rap se diffuse partout, j'y rajoute juste un peu d'attitude. C'est concluant dès le premier essai car je vise la coupe, la louche dehors présentée sur un réceptacle. La concurrence essaie de cacher nos compétences. On gratte sans complaisance sur des cahiers, du papier quand sont donc. Je parle, constate qu'on a encore de la route à faire. Toute la semaine dans ce rap jusqu'à m'en foutre la gerbe, c'est comme ça. Je pense à tout lâcher mais tout amène de bonnes bases. Pour vous la mettre, j'attendrai pas que tout ça vienne de votre cas. Cause rap is something you do, hip hop is something you live. The more emotion I put into it, the harder I rock. Rap is something you do, hip hop is something you live. Something you live, something you live. Rap is something you do. Hip hop is something you live. The more emotion I put into it, the harder I rock. Rap is something you do. Hip hop is something you live. The only way to live if you really think about it. J'ai des rimes spéciales. Toujours dangereuse, rap à tout bout de champ, m'active, mais pas de footing. Et non, la vie n'est pas un film génial. Tu vas piger tout doucement. Rien ne sert de mettre un filtre sépia sur ta misérable routine. Malgré le pédo, les choses sont carrées, j'ai lâché les chevaux. J'ai réparé des faux contacts pour chercher la plénitude en haute montagne. Faux spontané comme thème, la faute de frappe est mortelle comme un choc frontal. Mais Paris à Saint-Vite, on respecte pas s'il y a qu'un box. Je vous fais le taf, j'irai pas vendre des poules fraises, vanille à Saint-Trope. Et que je brise l'omerta ou que je finisse par picoler de l'agneau. Le reste que le pire des scénarios serait qu'on m'oublie comme Bernard Diomède. Attends, comment veux-tu que je perde? J'ai des responsabilités, plus de peps à vendre. J'ai entrevu le futur, je sais maintenant. Donc fini les excuses de merde. J'ai reconnu ma propre écriture sur le testament. If you really think about it. We'll be right back.